Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Edgar, Daniel et Polo et Julien, vous écoutez RMC, 20h45, on est ensemble jusqu'à 22h. L'after, restez bien à l'écoute d'RMC. Dans la foulée jusqu'à minuit, le retour du week-end Ligue 1 et notamment l'annonce officielle de la retraite internationale de Lionel Messi. Ce sera dans l'after à partir de 22h. C'est parti, un match de Ligue 2 ce soir également entre Dijon et Saint-Etienne. Bonsoir Fred Joly.
Bonsoir, bienvenue dans une ambiance surchauffée à Gaston Gérard. 15 000 spectateurs, match à guichet fermé. Ils sont plus de 700 supporters stéphanois à avoir fait le déplacement, les quelques 2h15 de route pour venir assister à cette rencontre où le leader surprenant stéphanois qui écrase tout depuis le début de ce championnat avec 3 victoires en 3 matchs, 10 buts marqués, un seul but encaissé face à des Dijonais promus qui ont un petit peu de mal à décoller dans ce championnat. À noter que du côté de Saint-Etienne, il y a deux absences de Marc Bréhoum, le milieu de terrain est blessé aux ischio, et puis Stassin, l'attaquant stéphanois, n'est pas titulaire car il serait sur le départ. Voilà pour les nouvelles. Et puis du côté de Dijon, a signalé une association en attaque, Tavares, 37 ans, donc 17 ans et demi à la pointe de l'attaque dijonnaise. 0-0, c'est parti depuis une minute.
À tout à l'heure, Fred. L'Italie à présent et la victoire de Côme sur le terrain du Napoli au Maradona. Fabregas a battu Allegri, victoire 2-1 pour Côme. L'ascension, l'ambition de Côme monte encore un peu, Daniele.
Bah oui, mais écoute, t'as dit que ça m'a fait plaisir, mais il y a un contrat, on en a parlé l'année dernière, idéologique entre Fabregas et Allegri. Ça a monté l'année dernière jusqu'à la scène d'Allegri qui dit Fabregas, t'es un couillon, t'es un enfant qui fait le coach depuis un an. Mais là, il y a eu plutôt un contraste footballistique énorme. C'est-à-dire, c'est quand même énorme de voir Naples, qui arrivait quand même deuxième l'année dernière. C'est à peu près la même équipe. Ils n'ont pas fait mercato cet été. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de trous aussi dans l'équipe. Mais ça reste à peu près la même équipe qui a gagné les championnats avec Spalletti. Ça reste l'équipe qui peut avoir Lobotka, un McTominay, un Guissa, De Bruyne, Alisson Santos au même moment sur les terrains, et il les fait pas jouer parce qu'Allegri, il préfère jouer conservateur, et il s'est fait donner un raclé assez énorme parce que pour 60 minutes, comment il a pas seulement gardé les 65% de possession de balles, mais il a eu énormément d'occasions, ils ont joué très bien entre les lignes, ils ont, à chaque fois que Naples essayait de pas être très très passif, mais ils essayaient de mettre un peu de pressing, eh ben ils passaient dans des trous, ils les punissaient à chaque fois en passant par l'intérieur du terrain. Il y a une énorme différence entre les équipes banales, conservateurs, on va dire les entraîneurs conservateurs qui font passer le jeu sur les côtés quand ils sont pressés, et les entraîneurs qui vont passer à l'intérieur. Là, il faut du courage par les défenseurs centraux, les milieux. Et le Como, c'est une équipe avec du courage, même avec un Nico Paz qui est pas encore incroyable. Il y a un Baturina qui grandit en puissance, un Douvikas. Oui, Douvikas aussi, il a marqué. Et là, il y a Moise Kean qui vient d'acheter de la Fiorentina, et donc ils vont avoir un deuxième buteur assez important. C'était une leçon footballistique. Après, il faut pas non plus être naïf. Une fois en difficulté, parce qu'après, Allegri, il s'est réveillé, il a mis De Bruyne. Et De Bruyne, c'est un des meilleurs joueurs, à mon avis, mais je pense que c'est assez objectif, un des meilleurs joueurs des dernières 20 ans. Il ne faut pas les laisser jouer avec la balle au pied tranquille, et comment il l'a fait. Et Naples était dangereux, et Fabregas, il a vite passé avec un système 5-4-1. Donc un système défensif, il allait défendre dans la surface. Et moi, je n'ai pas aimé ce comment-là. J'aime pas Fabregas quand il fait l'italien, on va dire. Je préfère qu'il fasse l'espagnol, comme on dit des fois, comme c'est une équipe de Liga en Serie A. Et, mais ça, moi, j'aime ça, j'aime en différence de. Et il y a beaucoup d'équipes qui, d'ailleurs, commencent un peu, pas à limiter, mais à comprendre qu'il faut faire quelque chose de différent si on veut avoir des résultats différents, justement, de ce qu'on a. Mais comment confirme, voilà, aller à Naples la deuxième journée après avoir fait match nul contre Udinese au premier match, c'est quand même un résultat très grand pour l'équipe.
Bien sûr.
Comment?
Et qui commencera sa première aventure Ligue des Champions le 10 septembre, la réception du RB Leipzig. Voilà pour le com de Fabregas.
Oui, match à 6 points.
C'est un match important pour les deux, ouais.
Ils ont un tirage assez dur hein, en Champions League, mais
bah, ils vont jouer.
T'as vu la psyche? Le match le plus simple, c'est Lens, en théorie.
Les deux clubs
néerlandais, le Real, Côme, Manchester United, Manchester City, je sais plus, il manque une équipe.
Et au Shakhtar, je crois, c'est ça?
Et au Shakhtar, c'est ça, ouais.
Ouais, c'est ça. Écoute,
il a pris Paris Saint-Germain, Barcelone, Betis.
Et Manchester United aussi, comme d'ailleurs.
Manchester United, Lens et Capitan.
Bon, on verra. Voilà pour le com de Fabregas.
Et Feyenoord.
Et Feyenoord également, ça dans la liste de courses notamment. Edgar, je veux dire un mot avec toi de Aubameyang, qui a fait décoller le Deport La Corogne. Le Deportivo La Corogne promu a de nouveau gagné un match de Liga. 8 ans après le dernier. Et le doit en partie aux Gabonais.
Bah, en grande partie même, parce qu'il a encore marqué 3 buts en 3 matchs, et ce qui est dingue, je vous invite à aller voir son but. On dirait le but d'un jeune attaquant rapide de 20 ans, quoi. C'est-à-dire, passe en profondeur, il fait un grand pont sur son défenseur, derrière il marque, justesse technique, là-bas, ils sont comme des fous, parce qu'ils ont l'impression, sauf les générations d'avant, qui ont eu l'occasion de voir les grandes équipes de la Corogne, bah, les plus jeunes supporters, ils ont jamais vu un joueur comme ça chez eux, quoi. C'est-à-dire, un joueur où tu sens qu'il a fait partie de l'élite du football mondial à un moment, qui est technique, qui est rapide, qui a une vitesse d'exécution, et ce qui est fou, c'est que même à son âge-là, t'as pas l'impression qu'il a énormément perdu. Alors évidemment, il est pas à son meilleur niveau de sa carrière, mais il joue encore sur cette vitesse et sur cette vivacité qu'on lui connaît.
C'est encore le Marseille plus rapide la saison dernière. Test physique.
Mais là, il va encore être parmi les plus rapides de Liga. Et là, c'était une fête totale pour eux parce qu'ils ont gagné à domicile, et je raconter en plus le scénario du premier but, c'était assez fou, vraiment une scène assez unique. En fait, t'avais les supporters qui faisaient grève pendant les 12 premières minutes du match. Ils contestaient contre une nouvelle règle, je crois, de sécurité. Enfin bon, ils faisaient grève sur les 12 premières minutes, et donc ils chantaient pas. Et à la 12e minute, ils commencent enfin à chanter. Mais quand je vous dis ils commencent à chanter, c'est-à-dire que t'as tout le stade qui saute, même en latéral, ambiance énorme. Et 45 secondes plus tard, alors qu'ils sont encore en train de retrouver cette fête justement dans leur stade, ils marquent, et alors là c'est l'euphorie totale. Tu vois le coach qui saute dans tous les sens, t'as l'impression qu'ils ont marqué un but de la victoire à la 90e. Donc c'était vraiment de très très belles images. Je pense que c'est une victoire qu'ils vont garder en mémoire contre Valence, parce que c'était un moment qu'ils attendaient depuis longtemps. Et globalement, quand tu regardes même les promus, c'est une équipe qui est bien armée, je pense, pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir faire une belle saison, qui a beaucoup recruté, à commencer donc par Aubameyang, qui on verra comment il tient aussi sur une longue saison à son âge aussi, mais qui pour l'instant est ultra ultra important. Ils sont à 5 points sur les 3 premiers matchs, ce qui pour un promu qui va jouer le maintien et un départ quasiment idyllique.
Qui devrait faire mieux le départ a priori que les deux promus, ce que tu me disais dans la préparation de l'émission, que le Racing Santander et Malaga, quoi, voilà.
Et surtout que Malaga, je pense que Malaga est vraiment celui qui est le moins bien embarqué des trois, même en termes d'effectifs, ils sont vraiment, les deux autres je pense sont vraiment armés pour pouvoir se maintenir, et surtout le départ.
Malaga, ancien club d'un international français qui était un Aïsna, messieurs, vous l'avez
Toulalan,
Jérémy Toulalan, bien sûr. Polo, on est habitué, c'est un feuilleton, tension au sein de l'Eintracht Francfort. La saison a commencé par un nul, 3-3 sur le terrain de l'Union de Berlin. Mais c'est en coulisses que ça tangue assez fort. Le sujet, c'est évidemment l'avenir du directeur sportif Marcus Krucheux et ses relations compliquées avec le coach à 18h.
Alors, c'est le sujet principal en Allemagne ce week-end.
Ah bon?
Parce que...
Carrément.
Ouais, c'est le sujet principal.
C'est intéressant que tu le dises, parce qu'on ne mesure pas à quel point c'est important en Allemagne.
Das Lonische Diva, c'est le surnom de Francfort, c'est la diva capricieuse, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça va bien, eh ben on sait que ça va retomber à un moment. Évidemment, c'est bien connu parce que le championnat 92 aurait dû être remporté par Francfort à la dernière journée, ils ont trouvé le moyen de le perdre, et etc. Ça continue comme ça. Bon, rappelons que l'année dernière, on se posait la question, est-ce qu'on n'était pas en train de vivre finalement la plus belle décennie de l'histoire du football de Francfort, qui est un gros club, plus de 50 000 places, qui a deux fois de suite frôlé les 400 millions de chiffre d'affaires. On est en train de monter en gamme. Rappelez-vous, il y a la victoire en Europa League, victoire en Coupe d'Allemagne, différentes finales, etc. Deux qualifications pour la Ligue des Champions. Et puis, patatras l'année dernière. Ça s'est mal passé avec Topmüller. Rappelez-vous le parcours dramatique en les 5-1 encaissés en Espagne, un peu partout, face à des équipes de première ligue, etc. Et donc, on change d'entraîneur. Le Crocheux décide d'aller chercher un entraîneur, Riera, qui est un bide monumental. D'ailleurs, je pense qu'il faut, l'interner, parce que je sais pas si vous avez suivi encore, au mois de juillet et août, il a continué à attaquer Francfort, alors qu'il est, évidemment, il s'est séparé. Il dit que le président est taré, il dit que les joueurs vont pas bien, etc. Et donc Crocheux, si tu veux, a été mis un petit peu sous surveillance. Crocheux, et je veux dire, en Allemagne, lorsqu'on est un grand directeur sportif, et Marcus Crocheux a été désigné plusieurs fois meilleur manager d'Allemagne, on s'en prend plein la tronche quasiment du jour au lendemain. Donc moi, je suis, quand je compare avec ce qui se passe en première ligue, ça me surprend toujours un petit peu. Et donc Marcus Crocheux a été mis un petit peu sous surveillance parce qu'il a fait des échecs. Il a pas résolu le problème du gardien. Adi Hütter, qu'il ne connaissait pas et qui est un coach très intéressant parce qu'il ce n'est pas un ami des joueurs, il le dit lui-même, réclame des renforts. Or, il y a, évidemment, comme il n'y a pas de qualification pour une Coupe d'Europe, on a fait partir différents joueurs. Le plus connu, évidemment, c'est Nathaniel Braun qui est parti au Bayern, mais il y a Amanda qui est parti en Première Ligue, évidemment, Christensen, Zetterer, etc. Il y a différents joueurs, Skiri qui est parti à Cologne, etc. Et donc, on a une refondation de l'effectif avec un adjuteur qui attend des renforts, et ces renforts, on ne les voit pas. Donc, c'est très compliqué en ce moment. Il y a deux choses qui se sont passées qui font que, enfin, j'ai envie de dire trois, avec évidemment la saison passée. C'est un, et je pense que Daniele ne va pas me démentir, c'est le flirt qu'il y aurait eu entre Marcus Crocheux et le Milan AC pour le poste de directeur sportif. Oui. Et ça, c'est très mal passé du côté de Francfort. Notamment parce que Marcus Crocheux, on a parlé comme quoi c'était quelque chose de normal, etc., qu'il soit dragué, etc. Bon, il y a une autre affaire, je vais pas en parler parce que je maîtrise pas assez le dossier. C'est qu'il semblerait qu'il ait acheté des terrains en Croatie, en tout cas sa femme, etc., et que c'est assez chelou ce qui se passe là-bas. Donc, il pourrait y avoir des suites, judiciaires assez complexes à ce niveau-là. Donc ça, je vais pas en parler parce que, mais en tout cas, ça fait tâche pour Francfort. On parle de lui d'un départ anticipé au mois de septembre, mais quand même, c'est lui, sur les 5 dernières années, qui a construit ce Francfort-là, où on a eu, rappelons-le, tout simplement, Ekitike, Marmouche, etc., pour des sommes modiques, relativement modiques, et vendues avec des véritables plus-values. Et donc, ce qui m'intéresse dans ce côté-là, au-delà d'un match que j'ai fondamentalement pas aimé, malgré le 3-3 entre Union et Francfort, on sent que les deux équipes sont pas loin d'être à 100%, et Francfort est encore traumatisé. Il y a le président Axel Hellmann, qui a dit quelque chose de très intéressant l'année dernière, qui disait que Francfort était peut-être devenu un oasis de bien-être. Et c'est que tout le monde se sent un petit peu trop chez lui, et qu'il y a quand même des logiques de performance très importantes pour un club aujourd'hui très ambitieux. On est théoriquement sur une année de réduction un petit peu, évidemment, de l'effectif parce que il y a pas de Coupe d'Europe. Mais je pense que ça reste on pense que Crocheux pourrait partir anticipé au mois de septembre, ce qui serait évidemment un nouveau séisme à Francfort, et j'espère que ça va quand même aller un peu mieux.
Il y a une réunion avec la direction mercredi, on dit qu'il va rien se passer, il n'y a aucun problème, tout va bien. Heureusement, une petite lueur dans la nuit, Polo, quand même. Tu peux en dire un mot en 15 secondes, on en reparlera de ce joueur peut-être, hein. C'est le jeune allemand Younes Mnoutalib, qui claque un triplé ce week-end.
Alors ça, c'est Adi Hütter a joué en 4-4-2, c'était assez intéressant, avec Burkhardt, évidemment, qui n'était pas aimé par Riera et qui plantait but sur but. Pourtant, et Mnoutalib, c'est les deux, ça fait plaisir, évidemment. Un ancien d'Elversberg, le record de transfert, d'ailleurs 8 millions d'euros. Il marque 3 buts, c'est très intéressant à ce niveau-là, mais il manque quand même quelques jours. Et puis j'ai appris qu'un transfert qui aurait dû être finalisé, Doan, finalement, le Ritsu Doan, le japonais, devait partir en Arabie Saoudite, et finalement il ne part pas. C'est dommage parce que je trouve que c'était un très mauvais transfert à l'époque. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas à Francfort.
Tu l'as dit, tu as raison, qui ne jouera pas de Coupe d'Europe cette saison. Tout à l'heure, il y a une petite info Voltema 2, je la mets sous le coude là. On va la sortir dans la deuxième heure. Magnifique, hein. La trajectoire de Voltema 2 est superbe. Il va déjà quitter Newcastle. La minute de Daniele, italienne, on envoie la musique pour
la libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone.
Ça c'est Giorgio Gaber, la libertà, il dit la liberté c'est participation. Et bon, je l'ai dit à Franco Baresi, un auditeur qui la semaine dernière il a dit j'aurais aimé un hommage à Baresi, mais j'ai attendu cette semaine parce que San Siro l'a hommagé lors du premier match officiel de Milan. Baresi il est mort à la fin du mois de juillet. c'était le libéro. Il a incarné le lore du libéro, le rôle du libéro, le dernier défenseur. Mais c'est aussi les premières des attaquants quand il partait balle au pied avec courage dans une époque moins tactique. Il s'est projeté vers l'avant par instant parce qu'il devenait un joueur supplémentaire en phase offensive parce que c'était son caractère, c'était son talent. Il n'était pas, comment dire, il n'était pas très, très grand, il n'était pas très fort physiquement, mais il était très très rapide, il avait beaucoup de courage. Et Baresi, c'était le bras levé pour appeler le hors-jeu dans une époque moins technologique d'aujourd'hui. Et que les arbitres, avec une telle autorité, que les arbitres sifflaient leur jeu presque toujours, on va dire toujours. Et Baresi, c'était aussi un type d'Italien dont on ne parle pas beaucoup. C'est un Italien silencieux, un Italien mystérieux, un Italien humble, honnête et travailleur. Donc un type d'Italien qui fait moins de bruit, mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup encore aujourd'hui. Donc voilà, je suis très content de lui dédier cette minute, et même si c'est très triste qu'il soit parti si tôt, parce qu'il avait peu plus de 60 ans.
66 ans, Baresi.
Numéro spécial en Allemagne, Elfreunde, dédié à Franco Baresi. Ouais, le titre, c'est le dernier de son art.
Ouais. Ben c'est un peu ce que ça résume un peu ce que disait Daniel à l'instant. Il Capitano, ouais. Franco Baresi.